Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous êtes bien sur le Curious Live. Je suis aujourd'hui accompagnée de Enola et Elodie. Le thème de cette saison porte sur l'évolution de la communication dans l'histoire. Comme nous approchons des fêtes de fin d'année, nous avions envie de rêver un petit peu avec vous en abordant pour le quatrième épisode de la saison le thème de la communication des maisons de luxe à l'ère du storytelling digital. On entend souvent parler du luxe, parfois du luxe à la française, mais qu'est-ce que le luxe, Elodie ?
Alors, d'après le dictionnaire, le luxe est le caractère coûteux, somptueux d'un bien ou d'un service. Le luxe n'a pas d'usage pratique, mais prioritairement symbolique. Cependant, on ne peut pas dire qu'il existe réellement à ce jour de définition du luxe qui mette tout le monde d'accord. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que la perception du luxe est relative, culturelle et fluide. Il est toutefois communément admis que la rareté et la sélectivité sont les valeurs structurantes du luxe. Et donc, pour cultiver ces valeurs de rareté et de sélectivité, les produits de luxe sont associés à des produits de haute qualité, franchement pas donnés, mais qui sont source d'une expérience unique de consommation, qui sont symboles de prestige social.
Tu nous disais que la perception du luxe est à la fois relative, culturelle et fluide. C'est vrai que dès qu'il est mention de la culture du luxe, on ne peut pas ne pas citer le luxe à la française comme chef de file culturel de ce secteur. Est-ce que tu as des infos à nous donner sur l'apparition des maisons de luxe en France ?
Nous retrouvons son apparition au Moyen-Âge avec l'arrivée de la discrimination à l'usage, où seules certaines catégories de personnes avaient le droit d'utiliser certaines matières premières. Le 19e siècle voit la naissance des premières grandes marques de luxe françaises et du monde d'ailleurs. On retrouve Louis Vuitton ou encore Thierry Hermès. Comme ces dernières, les premières marques de luxe portaient traditionnellement en elles un nom connu depuis plusieurs générations. Un attachement à un lieu emblématique, une histoire ancienne. Les maisons de luxe se portaient garantes d'un savoir-faire unique, transmis d'année en année avec le plus grand soin, et elles s'attachent à communiquer sur cette histoire avec soin, en perpétuant valeurs et traditions.
Comme tu le dis, Elodie, communiquer sur ses valeurs et ses traditions est primordial pour les maisons de luxe puisque cela leur permet de se créer une image, un univers même avec lequel leurs clients pourront s'identifier ou aspireront à faire partie. Ces clients qui avaient accès à ces produits de luxe, il est important de le préciser, étaient à la base et le sont toujours finalement des connaisseurs et des connaisseuses, tous très aisés. Comment est-ce que tu expliques, Enola, que les marques de luxe soient aujourd'hui aussi largement démocratisées ? Cela n'impacte-t-il pas sur leur essence d'inaccessibilité ?
En effet, les maisons de luxe étaient à l'origine destinées uniquement à servir les clients royaux et les bourgeois fortunés. Mais les années 80 vont complètement bouleverser le monde du luxe et lui faire y prendre une toute nouvelle dimension. Les petites boutiques familiales et leurs ateliers artisanaux se changent alors en grands groupes de luxe basés sur une logique plus financière et industrielle. Cependant, il n'a jamais été question pour les maisons de luxe de perdre leur essence. Si autrefois la réputation d'une maison était portée par son couturier et le bouche à oreille d'un cercle clos, elles vont commencer à s'appuyer sur la maison en elle-même et développer une véritable image de marque. En effet, selon Jean-Louis Dumas, PDG d'Hermès de 1978 à 2006, le luxe, c'est créer un rêve qui perdure. Ainsi, la créativité, le savoir-faire, le prestige des produits, l'excellence du service, les fondateurs mythiques ou encore les créateurs excentriques incarnent tout autant d'histoires pour les marques de luxe qui peuvent constituer leur patrimoine historique. On voit alors apparaître une véritable communication basée sur le storytelling dans le luxe.
Et qu'est-ce que le storytelling, d'ailleurs ?
Le storytelling signifie littéralement le fait de raconter une histoire dans le but de communiquer. Plutôt que de promouvoir un produit, le storytelling dans le secteur du luxe utilise un récit pour narrer la philosophie et les valeurs d'une marque. Ainsi, on ne vend pas seulement un produit, mais on vend également de manière plus symbolique une maison de luxe, un savoir-faire et un patrimoine de marque. On vend une histoire liée à celle du consommateur, ce qui fera naître, en lui, un besoin de posséder le produit à des fins statuaires. Le storytelling est un outil ultra pertinent quand on parle de luxe et surtout de mode.
Du coup, ça nous laisse nous questionner sur la façon dont les maisons de luxe utilisent le storytelling aujourd'hui. En quoi est-ce que le storytelling est-il un outil pertinent pour favoriser une expérience client agréable pour ceux qui achèteraient leurs produits en ligne de nos jours, Elodie ?
L'expérience client est depuis toujours au cœur de la stratégie marketing des marques de luxe en général. Et ceci au travers d'un storytelling narrant l'histoire de la marque, ses valeurs et son univers. Elles ont toutes quatre valeurs communes et essentielles qui sont l'authenticité, l'exception, l'élégance et la rareté. C'est d'ailleurs cette dernière qui va être mise particulièrement à mal dans les années 2000 lors de l'émergence d'Internet. Pendant longtemps, les maisons de luxe vont être réticentes à la digitalisation par peur de perdre la base de leur identité qui repose sur la difficulté d'accès.
Tu veux dire que devenir accessible à tous en étant présent sur Internet a affecté ce côté rare et exclusif inhérent au storytelling des maisons de luxe, n'ont-elles pas été réticentes à se mettre au digital ?
Si, tout à fait. On le voit notamment avec l'arrivée du e-commerce. Au début des années 2000, seulement 15% des marques de luxe proposaient la vente en ligne. La plupart craignaient de perdre la spontanéité de l'achat, ceci pour plusieurs raisons. La première étant la superficialité de l'achat par l'absence de l'expérience client présente dans les points de vente, ce qui est un atout différenciant majeur des marques de luxe. La deuxième raison étant l'exposition des prix aux internautes sur Internet. Ça leur donne une opportunité de les comparer au sein de leur environnement concurrentiel. Cependant, aux prémices de la vente en ligne, les clients des marques de luxe ont toujours une préférence pour l'expérience en boutique. C'est en 2007, à l'ère des réseaux sociaux, que ce modèle évolue vers le luxe digital interactif, puisque l'avis des utilisateurs et leurs commentaires laissés sur Internet impactent l'image de la marque et sa réputation. Après ce en quoi le digital a également impacté les marques de luxe, c'est qu'il a permis de rendre leur stratégie de contenu accessible à tous. N'importe quelle marque de nos jours peut s'emparer de la stratégie de communication des marques de luxe et la copier. Donc ça peut faire perdre aux maisons de luxe leur essence différenciatrice et donc ça les pousse plus que jamais à se réinventer.
Nous avons avec nous Salvan Mohandas Duménil, directeur général de l'Association internationale des grands magasins. Vous êtes très familier des grands groupes de luxe, vous évoluez dans ce secteur depuis longtemps. Pensez-vous, comme nous le disait Elodie, que le digital ne permet pas autant qu'avant aux maisons de luxe de se différencier ? Est-ce que la communication digitale, qui est très accessible pour le public, n'est pas incompatible avec la notion d'exclusivité du luxe, Salvan ?
C'est pas parce que vous voyez partout que je suis pas exclusif. C'est pas parce que vous voyez partout que je ne suis pas inaccessible. En fait, c'est même le contraire. Une des règles de base dans le luxe, c'est d'affirmer votre pouvoir en étant présent là où tout le monde va. D'affirmer votre, notamment votre pouvoir économique en ayant une boutique là, enfin dans les grands capitales. C'est-à-dire qu'on jauge votre prestige en termes de marque, en termes de business, par le nombre de boutiques et où elles sont placées. Vous savez, vous pouvez avoir le meilleur produit de luxe, le plus incroyable au monde. Si jamais vous n'êtes pas vendu, j'en sais rien, Avenue Montaigne à Paris, Via Monte Napoleone à Milan, sur la 5e à New York ou sur Bond Street à Londres ou au Bund à Shanghai, ça veut dire que personne ne vous voit en fait. Et donc ça veut dire que personne ne vous désire. Le paradoxe du luxe, il y en a plein dans le luxe des paradoxes, mais le paradoxe c'est que en fait, la désirabilité repose sur le fait que tout le monde puisse identifier le produit. Enfin, je parle d'un certain type de luxe. Mais concrètement, le truc, c'est que je peux porter un truc incroyable. Je peux porter un truc en cachemire dingue, machin, etc. Enfin, si vous ne savez pas ce que c'est, what's the point ? Et surtout dans un monde digital où finalement en fait on fonctionne tous à l'image, on fonctionne tous à l'immédiatement reconnaissable et au fait que ce soit identifiable. Donc j'aurais tendance à dire que c'est pas parce que, enfin le digital démultiplie de façon exponentielle en fait la visibilité des produits, mais ça veut pas du tout dire que ça les rend moins inaccessibles. Les réseaux sociaux c'est la même chose. C'est une façon de montrer qu'on est désirable et qu'on est aimé. Après ça veut pas dire que je vais vous vendre ce que vous voyez. Sinon, je vous montrerai pas la couture.
Merci beaucoup, Salvan. Et aussi, que font les maisons de luxe ? Ça va nous faire penser également pour se rendre désirable sur le net, Enola.
Beaucoup de marques de luxe misent sur ce qu'on appelle le owned media, c'est-à-dire les canaux de distribution que la marque peut contrôler. Un site internet, des comptes sur les réseaux sociaux, une application ou encore une newsletter. C'est l'occasion pour elles de communiquer directement avec le public. Aujourd'hui, les consommateurs veulent de la transparence et les maisons de luxe l'ont bien compris. Elle tente de changer alors le storytelling en story-proving, qui peut se traduire par « histoire prouvée ». En effet, pour prouver qu'on est transparent, il ne suffit plus de raconter une histoire, mais de démontrer pour prouver. Et pour ce faire, les marques de luxe sont des plus inventives. Ainsi, beaucoup de maisons de luxe se sont par exemple mis à la publication de vidéos « behind the scenes » qui montrent les coulisses de leur maison. C'est le cas d'Hermès et sa série documentaire disponible sur YouTube, qui met en lumière l'étendue du savoir-faire artisanal de la marque, mais également la face plus humaine, avec son lot de personnalités et d'anecdotes.
Merci. Nous faisons une courte pause musicale avec Suddenly I See de Katie Tunstall, un titre qui vous rappellera peut-être le célèbre film Le Diable s'habille en Prada, sorti dans les années 2000 et qui vous plongera dans le milieu de la presse de luxe. Et on se retrouve juste après. She's a beautiful girl, she's a beautiful girl.
Sur RCF en Bourgogne avec les étudiants du master Massy, spécialisé en stratégie de communication internationale, Edith Laville.
Vous écoutez bien l'émission Curious Live avec Enola et Elodie. Aujourd'hui, nous parlons de la communication des maisons de luxe à l'ère du storytelling digital. Nous sommes accompagnés de Selvan Mohandas Dumeni, directeur général de l'Association internationale des grands magasins. Selvan, nous parlions des changements de mode de communication effectués par les marques de luxe avec l'arrivée du digital. En quoi est-ce que les réseaux sociaux ont changé la façon dont les marques de luxe communiquent-elles sur leur image de marque et leurs produits ?
Les réseaux sociaux changent fondamentalement, par contre. Ce n'est pas tant la visibilité ou la notion d'exclusivité, j'y reviendrai après, mais c'est plus le fait que ça a forcé des marques de luxe à se repenser d'un certain point de vue qui était l'unilatéralité du message. Je m'explique. Un produit de luxe, en théorie, quand on regarde la théorie du 18e, 19e siècle, et même les chercheurs du 20e, c'est trois éléments. C'est d'abord basé sur un savoir-faire ou un terroir, mais un savoir-faire qui soit artisanal. C'est-à-dire, en fait, un savoir-faire unique, non reproductible, non industriel. Et non mécanique. Aujourd'hui, on sait que c'est plus tout à fait le cas, mais on est quand même dans un modèle où on peut fabriquer en série des sacs qui seront pas forcément tous les mêmes, vous voyez, ou qui vieilliront pas de la même manière. En tout cas, ce côté-là, qui est hérité directement du 18e, 17e, aujourd'hui, en fait, on sait qu'il existe toujours. Ensuite, l'autre point, c'est que c'est quand même le luxe, selon les chercheurs classiques, c'est aussi basé sur la destruction de ressources. Concrètement, je vais tuer un animal pour en faire une peau, pour en faire un sac. L'animal ne reviendra plus jamais, d'accord ? Donc on n'est pas dans la circularité. Aujourd'hui, ça, c'est discutable. Je continue à penser qu'une des raisons pour lesquelles les maisons de luxe n'embrassent pas tout à fait la circularité ou la seconde main, c'est simplement parce qu'on est toujours dans ce paradigme-là. Mais le troisième élément, et qui est sans doute le plus intéressant, c'est le fait que pendant très longtemps, les maisons de luxe ont affirmé leur préséance. C'est elles qui disaient qu'elles étaient bien. Ou alors, si ce n'était pas elles qui disaient, c'était une tierce partie. Le meilleur exemple, même si ce n'est pas un modèle de luxe, mais c'est Georges Clooney pour Nespresso. En fait, Georges Clooney explique au public, à qui personne ne peut répondre parce que c'est un acteur, il explique au public que c'est le meilleur café du monde. D'accord ? Karl Lagerfeld, c'est la même chose. C'est en ça que les réseaux sociaux changent un peu la donne, parce que vous pouvez répondre à un post Instagram. Vous pouvez poster une vidéo de réponse à un post TikTok. Et du coup, ça force les marques à revoir un peu leur posture de communication et à accepter les risques qui sont inhérents au fait que quelqu'un puisse leur répondre. Après, ça ouvre plein de portes, hein. Ce que je veux dire, c'est que quand je parle de risques qui sont inhérents, c'est-à-dire que concrètement, c'est-à-dire que vous êtes forcément scruté en permanence, parce que le moindre faux pas fait qu'on peut vous répondre que vous racontez des bêtises ou que c'est pas tout à fait vrai.
Merci Selvan. Et toi, Enola, tu as un exemple de nouvelles pratiques communicationnelles que l'on a vu apparaître chez les maisons de luxe avec l'arrivée du digital et des réseaux sociaux ?
Comme le disait Selvan, l'essor du digital et des réseaux sociaux a complètement poussé les maisons de luxe à être présentes en ligne afin d'être visibles. L'exemple parfait, c'est le brand content, c'est-à-dire la publication de contenu. Il a pour fonction de mettre en scène l'histoire et le savoir-faire des marques au lieu du produit et ses attributs. À titre d'exemple, depuis 2012, Chanel raconte son histoire en dévoilant un à un les 12 courts-métrages de la web-série Inside Chanel consacrés à sa fondatrice et à l'histoire de la maison.
Ah, les marques de luxe n'en finissent pas d'adapter leur communication à l'ère du temps. Comme l'a montré Enola, leur contenu en ligne est de plus en plus innovant. Comment les marques de luxe adaptent-elles leur communication aux nouvelles générations, Sylvain ?
Il y a un truc qui me frappe. Aujourd'hui, il n'y a pas grand intérêt. Alors, si, il y a des clients qui achètent sur Instagram, il y a des clients qui achètent sur TikTok, même si on sait qu'il y a quand même une certaine barrière, une barrière psychologique en termes de prix. C'est plutôt valable en Occident. En Asie, la barrière est moindre et on a déjà vu des Maserati vendus en ligne en moins d'une minute. Mais en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est le fait que les réseaux sociaux permettent d'exposer encore plus qu'avant les jeunes générations à des marques, aux marques. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, l'histoire de Moncler, Moncler est devenue hyper célèbre. Enfin, c'est une marque qui est très vieille puisqu'elle a été fondée dans les années 50. Et chose que j'ignorais, Moncler a été ultra cool dans les années 80 à Milan. Mais quand j'ai ultra cool, c'était vraiment le truc à avoir. C'était quand vous étiez la jeunesse dorée milanaise, c'était la doudoune, c'était les chevignons, c'était le jean qui allait, etc. Le digital permet de faire ça fois des millions et permet vraiment d'amplifier le raisonnement. Après, le seul truc, c'est que si on croise ça avec le fait que les utilisateurs de TikTok ou les utilisateurs d'Instagram ne soient pas forcément les mêmes qui aient les moyens de mettre, j'en sais rien, 4 500 € dans un sac, bien que ce soit largement questionnable, parce qu'en fait, je vous invite, quand vous venez à Paris, d'aller un samedi après-midi voir ce qui se passe à Avenue Montaigne ou rue Royale, dans les boutiques Gucci ou autres, ou Jacquemus. C'est assez dingue de voir en fait l'argent qui peut circuler et l'âge des clients. Mais en ce qui me concerne, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les maisons de luxe utilisent de plus en plus les réseaux sociaux comme des amplificateurs culturels, pour devenir presque des créateurs de contenu, voire même carrément simplement des référents culturels. En fait, je vais connaître Vuitton, je vous dis une bêtise. J'ai 12 ans, je ne sais pas ce que c'est Vuitton, mais je le connais. Vous voyez, enfin, c'est cette marque que je connais, avec laquelle j'ai toujours vécu, etc. Et quand vous rapprochez ça avec le fait que de plus en plus de marques se lancent dans la fabrication de produits qui sont plus forcément stricto du hard luxury. Donc en fait, Vuitton, en fait, vous savez, ils publient des livres, ils ont ouvert des galeries en Corée et au Japon, ils fabriquent du chocolat. Donc en fait, vous allez en fait, il y a de plus en plus de chocolateries Vuitton. Et en plus, le truc, c'est que quand vous allez dans un Vuitton, vous allez avoir du chocolat que vous ne pouvez pas trouver dans l'autre Vuitton. Je vous donne l'exemple de Vuitton, mais c'est applicable à Gucci, c'est applicable à Dior. Vuitton a annoncé l'ouverture d'un hôtel à Paris. Dior, pour moi, est la meilleure illustration de ce qui est en train de se passer, puisque quand vous allez dans la nouvelle boutique Dior, avenue Montaigne, qui fait quand même 10 000 mètres carrés, en fait, vous allez trouver évidemment toutes les collections à tous les prix. Vous allez trouver des bars, un restaurant, vous allez même trouver une chambre d'hôtel, vous allez trouver un musée. Donc en fait, c'est presque comme un parc d'attraction. C'est que physique, mais en fait, moi, je vois pas du tout de barrière à ce que demain, en fait, pour exagérer, mais qu'il y a un show Dior qui est, j'en sais, un dessin animé Dior, qui est des livres Dior, qui est des avatars Dior, il y a déjà en fait des produits virtuels Dior. Il y a rien qui empêche que dans 10 ans, en fait, une marque de luxe soit également en fait un producteur de contenu. Et pas simplement de produits.
En tout cas, on a hâte de découvrir quelles idées et contenus innovants les maisons de luxe produiront dans le futur. Merci beaucoup, Sylvain Mendez du Ménil, de nous avoir immergés dans cet univers bien particulier. C'est déjà la fin de cette 4e émission. Un grand merci à nos chroniqueuses Enola et Elodie pour nous avoir si bien éclairés sur l'histoire des maisons de luxe et l'évolution de leur storytelling. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, ou devrais-je dire l'année prochaine, pour aborder une nouvelle thématique. À bientôt, 18h30 sur RCF, votre journal local.